Chapitre 36. Le peuple Talpa est un peuple comme il n'en existe pas sur la terre. Messieurs Mifroid et Longuet, l'un comme commissaire et l'autre comme voleur, sont parfaitement ridicules. On m'amena Théophrase dans le plus triste état, raconte M. Mifroid. Incapable de refréner ses passions, il s'était laissé aller à la pire débauche. Je n'en fis point mes compliments à demoiselle de Coucy, et j'en fus d'autant plus navré que nous étions, dans le moment où il fallait, montrer à ces gens ce qu'était un commissaire de police. Or, j'avais besoin d'un voleur, et Théophras était incapable de faire mon affaire. Ces gens sont si ignorants que je ne pouvais espérer leur donner un aperçu de mes officielles fonctions qu'avec une leçon de choses. Ne comprenant point ce qu'est un commissaire de police, n'ayant aucune idée de ce qu'est un voleur. Peut-être, par le complément de l'un et de l'autre, serais-je arrivé à un résultat. Ainsi pensais-je, mais sans conviction, à cause du laisser-aller de Théophraste. Cependant, la foule augmentait. D'autorité, j'avais fait la lumière, il se bouchait le nez et attendait. Dans quelques phrases bien senties, je priais Théophraste de se tenir devant le monde, et Dame de Montfort, à côté de moi, me suppliant de commencer parce que le peuple finissait par s'énerver, je conduisis Théophraste dans une boutique de chapelier qui, comme toutes les autres boutiques, était ouverte aux passants. Et je lui dis, sur un ton sans réplique, « Allez, fais le voleur !» Chacun nous suivit, et ces gens se massèrent devant la boutique comme chez nous on se précipite à l'aventure d'un pharmacien après un accident. Il y avait là beaucoup de casquettes en peau de rat et de chapeaux en peau de poisson. Quelques-uns s'ornaient de plumes de canard. Théophras me sourit de façon si insipide que j'aurais giflé. Enfin, il se décida, et son instinct du fond des siècles réapparaissant, il s'empara prestement de 6 casquettes qu'il dissimula fort habilement sous sa redingote et de 3 chapeaux de formats différents qu'il mit, sans avoir l'air de rien, les uns dans les autres sur sa tête. Et puis il essaya de s'éloigner naturellement en regardant de droite et de gauche ce qui se passait dans la rue et sifflant à petit air. Nos gens autour de nous ne bronchaient pas. Ils étaient muets comme carpes et regardaient de toutes leurs oreilles. Quelques groins roses seulement se prirent à sourire en faisant cette réflexion que ce beau sire faisait des provisions de chapeaux pour plusieurs années. C'est alors que je m'annonçai et que je dis de ma voix officielle, en mettant ma main droite sur l'épaule de Théophraste, « Au nom de la loi, je vous arrête !» Oh, cette fois, je crois bien qu'ils avaient compris et que je n'aurais plus à leur expliquer ce qu'est un commissaire de police et un voleur. Mais ils conservaient qui leur mutisme imbécile, qui leur sourire stupéfiant. Damoiselle de Coucy, m'ayant demandé ce que c'était que « au nom de la loi », je lui parlais de la loi avec un commencement de colère, mais il me fut impossible de me faire entendre. D'après elle, ou fallait-il la croire, le peuple Talpa n'avait ni loi, ni voleur, ni commissaire de police. Elle précisa devant tout le monde sa question et me demanda à quoi pouvait servir un commissaire de police. Je lui répondis, « Vous l'avez vu, à arrêter les voleurs. » Elle me demanda à quoi pouvaient servir les voleurs. Je lui répondis, à se faire arrêter par les commissaires de police. Elle précisa davantage et demanda la définition de la police. Je lui dis, « La police est une institution qui a pour but de protéger les citoyens paisibles et honnêtes dans leur personne et leur propriété. » Ils se taisaient encore comme si je leur avais dit de l'hébreu. Non, je m'écriais, « Le commissaire de police est le gardien des lois. Ainsi, il y a une loi qui empêche de prendre des chapeaux dans une boutique. Ils m'interrompirent tous en criant « Nenni ! Comment, Nenil ? Vous n'avez pas de loi ? Nenil ? Ni de gardien des lois ? Nenil ? » Enfin, fis-je furieux de cette mauvaise plaisanterie, il y a un État. Nenil ? Vous, vous êtes l'État ? Nenil ? Mais vous avez des chefs qui sont l'État ? Nenil ? Je me pris la tête dans mes deux mains et je résolus de revenir à l'exemple palpable. Mon ami n'a pas le droit de prendre ses chapeaux dans la boutique de ce chapelier. Oil ! Comment, il a le droit de prendre ses chapeaux ? Oil ! Mais ses chapeaux ne lui appartiennent pas. Oil ! Alors il peut prendre tous ses chapeaux. Oil ! J'étais cramoisi. Dame de Montfort se pencha vers moi et me confia que tous ces gens me demandaient ce que mon ami comptait faire de tous ses chapeaux. Je lui dis qu'il comptait les vendre. Elle me répondit que dans les livres sacrés, c'est-à-dire dans les vieilles légendes de son pays, on avait conservé la trace de ce que pouvait être autrefois l'achat et la vente, mais que seules les personnes très savantes comme elles pouvaient s'en avoir une idée. « Chez les talpas, me fit-elle, on ne vend pas, parce qu'on n'achète pas. Chacun prend ce qu'il a besoin de prendre. Et comme il n'a pas besoin de prendre 10 chapeaux pour les mettre à la fois sur sa tête, mon ami passait pour un pauvre malheureux, un triste fol. » Cette plaisanterie a trop duré, fis-je. Croyez-en un commissaire de police qui a pu se rendre compte souvent par lui-même de la nécessité des lois. Alors Dame de Montfort me demanda à quoi servent les lois. Je lui répondis, il y a 3 choses, il y a les lois qui protègent l'État, il y a les lois qui protègent la propriété, il y a les lois qui protègent l'individu. Dame de Montfort me répondit qu'il n'y avait pas besoin de loi chez eux pour protéger l'État, puisqu'il n'y avait pas d'État, ni pour protéger la propriété, puisqu'il n'y avait pas de propriété. Je l'attendais aux individus. Oui, mais vous avez des individus. Oh, ils répondirent-ils tous. Mais Dame de Montfort me fit entendre, dès que je lui eus parlé des conflits entre les individus, que ces conflits, d'après ce que je lui avais dit, naissant de la propriété, du moment qu'il n'y avait plus de propriété, les conflits n'existaient plus. Et pourquoi avoir des lois qui auraient protégé des individus qui n'ont pas de conflit puisqu'il n'y a pas de propriété ? J'étais tellement abruti que je répondis « Oil !» Quant à Théophraste, il était là, planté devant moi avec ses chapeaux. Lui, il avait compris. Il déposa les chapeaux, il les avait pris et dit « Pour sûr, c'est pas la peine de voler puisque je peux repasser demain. » Je me sauvai dans la chambre de Dame de Montfort car je sentais ma cervelle fuir de tous côtés. Ma petite amie m'y rejoignit et me pria de ne point me frapper, comme nous disons chez nous. Je crus cependant d'avoir à lui faire observer qu'un pareil système d'existence de peuple ne pouvait servir que les fainéants. Mais elle me répondit qu'il n'y avait rien de plus fatigant au monde que de ne rien faire, ni de plus intéressant que de travailler pour se distraire, et que tout le monde dans le pays se distrayait à faire des chapeaux, des bottines, des autres choses, des corps de chasse, des maisons, des ponts, des boîtes de conserve, de la littérature. Oui, oui, de beaux livres d'histoire pour les étrennes et des poèmes immortels qu'ils lisaient passionnément avec leurs 20 doigts. Certainement, me fit-elle comprendre avec ce système, il n'y a pas de surproduction, mais nul ne s'en plaignait. Je n'osais lui avouer qu'avec notre système à nous et notre manie de louer l'activité à propos de tout et à propos de rien, la surproduction était un fléau. Je lui demandais encore, pour en avoir le cœur net, pourquoi, avec son système, tout le monde n'était pas faiseur de livres, ce qui, je me l'imaginais, était plus agréable que d'être faiseur de bottes. Elle me répondit en me demandant si, chez nous, il y avait une loi qui me forçait à être commissaire de police. Je répliquai que non. Alors elle me demanda le pourquoi de l'État où j'étais dit commissaire de police. Je ne sus que dire. Aussitôt, elle me traita d'enfant et me prit le crâne entre ses 20 doigts. Mais l'ayant palpé, elle me fit comprendre que d'après ce que je lui avais raconté du métier de commissaire, j'avais été dans la nécessité de songer dès mon plus jeune âge à être commissaire à cause de la conformation de mon cerveau. J'ai, paraît-il, une proéminence bombée à 3 cm de l'arcade sourcilière. Cette proéminence qu'elle reconnut immédiatement, bien qu'elle ne fût pas accoutumée au point de repère des sourcils, est celle de la ruse et de la finesse. Elle me dit aussi que je devais avoir le sens des arts à cause d'une circonvolution roulée en spirale placée sous la réunion temporale. Enfin, elle me confia encore, avec un gentil sourire de son groin rose, que j'avais l'instinct de la propagation de l'espèce à cause du développement excessif de mon cervelet. Mais elle était d'accord, je dois l'avouer, avec l'avatar égal. Je saisis, d'après son discours, que nous devions nous étonner autant dans notre société qu'il se trouvait tant tous les bouchers, tous les tailleurs et tous les artistes qu'il fallait, et tous les bottiers, si nous devions nous étonner de cela dans la société sans loi des talpas, puisque nos lois n'étaient pour rien dans la distribution des états, professions et métiers. Pourquoi ne m'étonnerais-je point, conclut-elle, qu'il y a tous les mâles et toutes les femelles qu'il faut? La nature fait des bottiers, des littérateurs, des charcutiers de rats, comme elle fait des mâles et des femelles, le tout dans une quantité harmonieuse. Ma cervelle continuait à fuir de toutes parts. Alors je crus avoir un argument décisif et je m'écriai. Pas de loi pour l'État, puisqu'il n'y a pas d'État. Pas de loi pour la propriété, puisqu'il n'y a pas de propriété. Pas de loi pour les conflits entre individus résultant de la propriété. Mais pour les conflits résultant des passions, si vous avez supprimé l'État et la propriété, vous n'avez pas supprimé les passions. Elle me demanda si nous avions des lois qui les supprimaient. Je lui répondis, Hoyle. Il fallut que j'expliquasse ce que c'était que nos lois concernant les passions. Par exemple, un mari est trompé par sa femme qu'il adore, il la tue et il passe, de par les lois, devant un tribunal de 12 citoyens. Elle eut la curiosité de m'en demander encore ce que les 12 citoyens, en l'occurrence, faisaient du mari. Je lui répondis qu'il la quittait. Voilà donc, me fit-elle entendre des lois inutiles quant aux passions. J'étais enterré. Tout à coup, j'entendis sous la fenêtre un prodigieux éclat de rire. C'était la nation Talpa qui riait de l'idée qu'avaient eu les nations du dessus d'inventer les voleurs et les commissaires de police. Ils riaient, les groins roses, les 20 000 groins roses, excepté ceux qui étaient partis pour la chasse. Ils étaient riés, mais ils riaient à en faire éclater la terre. Oui. Chapitre 37. Pour quel subterfuge Monsieur Mifroy et Longuet parviennent à s'échapper des catacombes? Je n'ai rien à cacher au lecteur, et il a sans doute deviné de quelle liberté de mœurs jouissait le peuple talpa. Le mariage était chez eux une institution préhistorique dont ils ne parlaient qu'en souriant, et qui du reste leur apparaissait tellement monstrueuse et indigne de l'état humain qu'ils y croyaient qu'à moitié, comme à une sorte de légende inscrite dans les livres sacrés. À l'encontre des autres peuples qui ne parlent des livres sacrés qu'avec le plus grand respect, car ces livres sont à l'origine des fleuves, le peuple talpa n'invoquait ces antiques tablettes que pour s'engausser, comme d'un conte de la mer Loire. Mais tout en s'engaussant, il les avait toujours présentes à la mémoire, de telle sorte qu'il n'oubliait jamais de faire le contraire de ce qui s'y trouvait ordonné. Pour en revenir au mariage, il n'y avait donc pas de mariage, mais l'union la plus libre qui se pût imaginer. Cependant, il n'était pas rare de voir ces unions se perpétuer depuis l'adolescence jusqu'à la mort. À côté du spectacle réconfortant de ces unions que scellait la fidélité la plus inconnue sur le dessus de la terre, je vous donne ma parole qu'un quasi-vertueux commissaire de police avait quelque occasion de s'étonner de la rapidité inconcevable et de la variété stupéfiante avec lesquelles s'échangeaient les baisers les plus définitifs. Mais le quasi-vertueux commissaire était le seul à s'étonner de ces choses. M. Théophraste Longuet lui-même semblait avoir oublié les derniers liens qui le rattachaient au-dessus de la terre, et alors que je m'étais abandonné aux fantaisies un peu excessives, quoique originales, de Dame de Montfort, qu'à mon corps défendant, Théophraste s'était vautré dans la débauche, sans retenue et sans honte. Quand je le voyais venir à moi, dans ces moments lucides, les yeux creusés par l'insomnie et les joues flasques se tapant sur les cuisses en disant « Ils sont épatants dans les catacombes !» Il me dégoûtait. Vraiment, je ne trouve pas d'autre vocable pour traduire mon écœurement. Il me dégoûtait. Parenthèse. Ne nous étonnons point du succès que remportaient auprès du beau sexe ces deux monstres qui étaient pour le peuple talba, messieurs Millefroy et Longuet. Récemment, nous avons vu un chimpanzé beau parleur dans un music-hall recueillir, s'il faut en croire la chronique galante, les suffrages les plus difficiles, les plus inaccessibles beautés de la capitale. Et il en est mort. Fermez la parenthèse. Ce qui me dépasse tout à fait, c'est qu'il n'y eut aucune différence à établir ou à constater entre les plus vertueuses des femmes talpa et les plus légères. Elles vivaient toutes sur le même pied et jouissaient de la même considération. Les premières ne s'étonnaient point plus de la frivolité amoureuse des secondes que les secondes ne s'extasiaient sur les vertus des premières. Les choses se passaient suivant les goûts et les tempéraments, et nul n'y prenait garde. C'est ainsi que je m'expliquais que chez ce peuple, les conflits de passion fussent réduits à leur strict minimum. Comme me le fit entendre Dame de Montfort, personne n'étant la propriété de personne, personne n'avait même l'idée d'avoir des droits sur personne. L'idée du mariage étant issue de l'idée de propriété, cette idée de propriété conjugale a inspiré fatalement l'idée de propriété même dans l'amour libre dans nos sociétés. Mais chez un peuple qui, comme celui des talpa, ignore la propriété, celle des personnes comme celle des choses, personne ne devant rien à personne, pas plus sa personne que le reste, l'existence du vol d'amour, qui chez nous est la cause première de tous les conflits de passion, est aussi insoupçonné, je dirais même aussi impossible, que tous les autres vols. Est-il nécessaire de dire combien de pareilles théories révoltaient en moi l'honnêteté sociale du commissaire de police, et combien la vision d'une désorganisation aussi radicale me chavirait l'intelligence ? Mais enfin, m'écriai-je, il y a les enfants. Puisqu'ils n'ont pas de parents reconnus, qu'est-ce qui les élève? Ce n'est pas l'État, puisqu'il n'y a pas d'État. Votre ville doit être grouillante de petits-enfants abandonnés, à moins qu'on ne les jette dans le lac, comme chez les Chinois. Mais elle me répondit qu'il n'avait pas assez d'enfants, qu'on s'inscrivait à l'avance pour en avoir, que les enfants, c'était une grande distraction, et que les personnes qui n'en avaient pas suppliaient les personnes qui en avaient trop de leur en passer un ou deux. Quand une femme était grosse, c'était à qui la soignerait, dans l'espérance qu'elle aurait deux jumeaux. Je lui demandai encore quelle instruction il recevait. Elle me répondit que chez eux, l'instruction n'était pas obligatoire et qu'on ne donnait guère que de l'instruction de métier. Seuls les jeunes gens qui se sentaient beaucoup d'imagination recevaient une instruction générale qui leur était donnée par d'illustres rêveurs qu'on rencontre tous les jours au coin des bords de public, ce qui permettait à ces jeunes gens de faire, par la suite, des vers immortels. Mais l'immense majorité des enfants s'amusaient à apprendre à être bottier ou maçon ou tailleur, et alors ils faisaient avec orgueil des chefs-d'œuvre de maison ou d'habits ou de bottes. Tant de stupidité d'Ozial me donnait des nausées. « Vous avez de la veine, fis-je, de n'être que 20 000, car si vous étiez seulement 30 000 000, vous verriez ce qui resterait de votre désorganisation. Vous seriez organisé au bout de 8 jours. » Elle me répondit qu'il pouvait être, au lieu de 20 000 talpas, 390 364 talpas, et même davantage, que cela ne modifierait en rien leur désorganisation, qu'ils étaient désorganisés en îlots de 400 talpas, et que chaque îlot avait une place publique où se traitaient les affaires publiques de l'îlot. Un îlot de plus ou de moins leur était parfaitement indifférent quant à leur désorganisation. Et puis, elle ajouta que ces places publiques ne servaient à rien, en réalité, quant à la discussion des affaires publiques, parce que, en dehors de la question d'un pont à construire ou d'un égout, ce qui arrivait tous les 200 ans, il n'y avait pas d'affaires publiques. Il me répliqua qu'il n'avait jamais été aussi heureux, lui, Théophraste, et qu'il passait son temps à jouer les plus joyeux tours à cartouche dont l'âme inutile lui laissait enfin la grande paix inconnue sur la terre. Quinze jours s'étaient écoulés depuis notre arrivée chez les Talpas. Je commençais à en avoir assez de leurs groins roses, de leurs charcuteries de rats et de leurs concerts de silence. Je songeais sérieusement à les quitter, et je me proposais d'exécuter mon dessein quand j'appris par demoiselle de Coucy, dame de Montfort m'avait quitté pour Théophraste, que les places publiques avaient décidé de ne nous laisser partir que lorsque les 20 000 talpas nous auraient passé leurs doigts sur le visage, pour que le peuple talpa fût dégoûté à jamais de tenter de retourner sur le dessus de la terre dont il est parlé dans les livres sacrés. Chacun de nos deux visages était livré à 10 talpas par jour, ce qui faisait 20 talpas par jour. D'où 50 jours pour 1 000 talpas, d'où 1 000 jours pour 20 000 talpas, les chiffres sont exacts. La perspective de 3 années passées ainsi au fond des catacombes n'avait rien d'attrayant, bien que les talpas eussent tous les mains propres et les ongles fort soignés. Théophraste, lui, trouvait que 3 années, c'était bien court, et il ne parlait de rien moins que de se crever les yeux pour être comme tout le monde. Nous n'étions jamais longtemps seuls. Dans le moment que l'on s'y attendait le moins, des doigts nous entraient dans le nez ou dans les oreilles. C'est alors que j'eus l'idée miraculeuse d'utiliser mes talents de sculpteur pour fabriquer deux masques de terre glaise à l'image des groins de Talpa. Cette terre glaise fut recouverte de peau de rat fraîche. Je m'appliquai l'un de ces masques, puis, sous couleur de flatter la manie de Théophraste qui ne rêvait que de venir Talpa, je lui en collai un à travers le visage. Il rit beaucoup, surtout quand, en cours de route, nous rencontrâmes des Talpas qui, malgré la promenade des doigts, ne nous reconnurent point. Et quand il eut fini de rire, il n'y avait plus de Talpas. Mon âme reconnaissante remerciait l'être suprême. Nous avions enfin retrouvé la grande solitude des catacombes. J'avais eu la précaution d'emporter quelques boîtes de conserve de végétation cryptogamique, ce qui nous permit de marcher pendant 5 jours, au bout desquels nous tombâmes au milieu de l'ossuaire dans une fête de nuit donnée par les civilisés du dessus de la terre. Nous étions sauvés. Chapitre 38. Un joyeux ossuaire. Dès que j'eus reconnu les premiers ossements, je les saluai avec gratitude. Je montrai ces tibias, ces péronnés, quelques cubitus à Théophraste qui ne se dérida pas. Depuis que nous avions quitté les Talpas, il ne cessait de me reprocher notre fuite avec amertume, et ses yeux souvent étaient pleins de larmes. Pauvre et cher Théophraste, il était calme maintenant et le plus doux des hommes. Son séjour dans les catacombes semblait lui avoir fait le plus grand bien, avoir chassé de son esprit toute extravagance sanguinaire, et j'en étais très heureux, car malgré ses défauts et surtout l'incroyable relâchement de ses mœurs chez les Talpas, je l'avais pris en amitié. Bientôt, un crâne s'étant présenté à nous avec une chandelle allumée dans l'œil gauche, j'en conclus que nous entrions enfin dans l'empire des vivants. Des chandelles dans les crânes, des girandoles de chandelles clignotantes. La galerie descend, le sol se fait humide, nous pataugeons dans la boue, des gouttes pleuvent sur nous de paroles parois supérieures. Nous marchons 10 minutes encore, 1 quart d'heure. Je reconnais mes ossements. Ah, voici ceux du cimetière de Saint-Laurent, déposés le 7 novembre 1804, et ceux de Saint-Esprit. Des milliers et des milliers s'enfoncent à droite, à gauche, dans les ténèbres. Toujours les petites chandelles. Les ossements sont bien alignés, bien rabotés, jolis. On dirait d'interminables et vastes haies de buis où viennent de passer les ciseaux du tondeur. Et des inscriptions. Ossa rida audite verbum domini. Ils entendront autre chose que la parole du Seigneur cette nuit. Les eaux arides. Des voix, des papotages féminins, quelques rires nous annoncent que nous touchons au terme de notre voyage. Stimulus autem mortis peccatum est. Oui, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le péché est là ce soir, et les pécheresses aussi. Des dames qui ont des bandeaux plats. Les premières paroles du 19e siècle que nous entendons sont celles-ci. Eh bien, mon vieux, c'est pas gai, cette affaire-là. J'aime mieux bullier. 18 ans. Je suis pas prêt de remplacer les tibias qui sont ici. Nous arrivons sur une sorte de place publique des morts où se prépare la fête. On ne fait nulle attention à nous, on nous prend pour des invités. Au long des murs funèbres, on a rangé des chaises. Le luminaire se fait plus nombreux, les chandelles se dressent aux chandeliers des sirènes. Au bout de cette galerie, une rotonde où s'alignent en cercle régulièrement les pupitres à musique. Pas encore de musiciens. Ils arriveront tout à l'heure, après les dernières mesures à l'Académie nationale, nous dit-on. Le public s'empare des chaises, se les dispute, échange des plaisanteries sur la physionomie de Maccabée, attend. Il est 1h30 du matin. Les musiciens arrivent avec les boîtes lourdes des instruments. Oh alors ! Tous les cabarets du néant, toutes les scènes anti-syscomistico-madacres, où l'on vient bafouer la vie et se gausser de la mort, toutes les boîtes de la butte où les crânes ricanent au mur, où les squelettes chahutent sur les planches, tout le carnaval funéraire de Montmartre est dépassé. Nous avons devant nous 50 musiciens, des orchestres de l'opéra, de l'amoureux de colonne, qui sont descendus au royaume des morts pour donner l'obade aux trépassés. Et sous les voûtes des catacombes, parmi les avenues et les carrefours où s'alignent les murs tragiques des crânes, des tibias et des fémurs, la marche funèbre de Chopin fait entendre sa plainte devant un public d'esthètes, de petits ventres affamés, d'artistes, de bulgares, de moldovalaques, de quelques habitués des premières, de M. le commissaire Mifroy et de M. Théophraste Longuet, qui redort sur une chaise. Quand il est au théâtre, ça rate pas. Parfait, le premier violon, parfait, fis-je à mi-voix. Je suis un amateur. Ce qui me transporta complètement, ce fut la façon dont ces messieurs exécutèrent l'adagio de la troisième symphonie de Beethoven. Enfin, nous eûmes la danse macabre de Saint-Saëns. Après quoi, je frappai sur l'épaule de Théophraste et lui dis qu'il était très tard, qu'il fallait rentrer chez nous. Bon, Théophraste faisait tout ce que je voulais. Nous pressâmes le pas et 10 minutes plus tard, nous nous retrouvions sur le dessus de la terre. Je soupirai avec satisfaction. Vraiment, cette promenade de 3 semaines à l'envers de Paris n'avait pas été vieux jeu du tout. Oh, ces catacombes, ce peuple de talpas, ces canards aveugles, ces acelli aquatici, ces concerts de science et enfin ces concepts de musique. Je vous avais bien dit, fis-je à Théophraste, que nous en sortirions. Madame Bifroy va être bien contente de me revoir. Tant mieux, monsieur Bifroy, tant mieux pour vous et pour elle. Théophraste était bien, bien triste, bien triste. Je lui dis, mais jamais je n'aurais cru qu'il se passât tant de choses dans les catacombes. L'auteur de ces lignes, après avoir compulsé les différents mémoires qui ont été publiés sur le laboratoire des catacombes et sur les travaux de Milne Edwards, après avoir constaté que M. Mifroy ne se moquait de personne avec ses canards aveugles et ses groins et ses talpas, et racontait l'exacte vérité possible, à moins de refuser toute autorité à Arago lui-même, fut un peu étonné de se trouver en face de cette partie du mémoire de M. Mifroy, où il est question du concert donné par les musiciens de l'opéra ossuaire. Ceci dépassait de beaucoup en fantastique tout ce que M. Mifroy avait raconté jusqu'alors, car les catacombes sont propriété de la ville de Paris et les portes en sont rigoureusement closes. Elles ne s'ouvrent qu'une fois le mois aux visiteurs, munis du laissez-passer de la préfecture, et le viol nocturne de l'immense fosse par les rires alcooliques des cocottes du quartier et les violoneux d'opéra lui semblait impossible. Ayant rencontré dernièrement un haut fonctionnaire de la police, il entretint de la question et lui demanda si en son âme et conscience il pensait que M. le commissaire de police Mifroy était capable de raconter un événement impossible. Le haut fonctionnaire lui répondit en son âme et conscience qu'il ne le croyait pas et il demanda à son tour de quel événement il s'agissait. « D'un concert dans les catacombes ?» fit l'auteur de ces lignes. « Monsieur, répondit le haut fonctionnaire, c'est si peu impossible que le journal Le Matin a rendu compte d'un concert semblable à la date du 3 avril 1897. Quelle mémoire des dates avait ce haut fonctionnaire ! En effet, à cette date, il est rendu compte dans Le Matin d'un concert qui fut donné à 2 heures du matin dans les catacombes. Le reporter dit « Nous avions cru à quelques poissons d'avril d'actualité, à quelques farces sinistres. L'invitation qui nous fut adressée était ainsi libellée. Vous êtes prié d'assister au concert spirituel et profane qui se fera le vendredi 2 avril 1897 en l'ossuaire des catacombes de Paris par le concours d'artistes musicaux très éminents. Note précieuse. L'entrée sera rue Darrot, 92, près de la rue Allée, dès 11h du soir. Pour éviter le rassemblement de curieux et de gêneurs, prière de ne pas ordonner l'arrêt de voiture devant la porte d'entrée. » Le reporter s'était rendu naturellement à cette invitation et racontait ses impressions qui étaient ainsi trompées, celles de M. Mifroy. Il est vrai qu'en somme, un concert dans les catacombes, c'est toujours un concert dans les catacombes et la note ne saurait varier. Il faut mettre hors de cause les concerts de silence, d'où la note varie toujours. Le reporter avait interviewé l'un des organisateurs de cette petite fête macabre. « Ben, l'idée nous en est venue un soir, » raconte l'organisateur. « C'est un de nos amis, un étudiant en médecine, M. Doubrol. Nous avons pensé que ce ne serait point banal, cette note d'art, du Chopin dans les catacombes. Et comme un ami, M. Dell, nous fit entendre que la chose était possible, nous nous sommes immédiatement organisés. M. Allat, littérateur, Joanneau, musicien, Prenet, compositeur, Lassalle, littérateur, Donio, artiste, et nos efforts ont abouti. Nous n'avons pas besoin de vous dire que nous sommes ici subrepticement et que nous n'avons nullement l'autorisation de la préfecture. L'ingénieur de la ville, M. Pellet, ignore le concert qui se donne ce soir aux catacombes. » Et le reporter ajoute « Ces jeunes gens disaient vrai. Deux ouvriers qui ont pris sur eux de les introduire et qui, nous le croyons sans peine, ont par cela même risqué leur place, nous confirment les paroles de l'organisateur. » Nous marchions depuis une demi-heure sans mot dire, quand M. Loguet me demanda « Mais qu'attendez-vous, M. Mifroy ?»« Comment, je n'attends rien, ni personne. » C'est moi certainement qu'on attend. Et je suis persuadé que Madame Mifroy est dans une terrible anxiété. À propos, cher ami, crus-je devoir ajouter, si jamais vous rencontrez Madame Mifroy et que la conversation roule sur le souterrain des catacombes, vous serez bien aimable de glisser sur la liberté des mœurs du peuple talpa. Mon avis est que le dessous de la terre ne regarde pas le dessus. « Ben voulez-vous être tout à fait tranquille, monsieur Mifroy ? Eh bien, arrêtez-moi. Quand je vous demande ce que vous attendez, c'est ce que vous attendez pour m'arrêter. Non, monsieur Longuet, non, 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 je ne vous arrêterai pas. J'avais mission d'arrêter Cartouche, mais Cartouche n'est plus. Il n'y a plus que monsieur Longuet, et monsieur Longuet est mon ami. Théophraste avait les larmes aux yeux. Je crois bien, en effet, dit-il, que je suis guéri. Oh, si j'en étais sûr. Qu'est-ce que vous feriez? Si j'étais sûr que les talpas m'aient tout à fait guéri de cartouche. Eh bien, j'irai retrouver ma femme, ma chère Marceline. Mais il faut aller retrouver votre femme, monsieur Longuet, il le faut. Vous me le conseillez? Mais n'en doutez point. Dans ces conditions, fit Théophraste, qui pleurait à chaudes larmes à l'idée qu'il allait retrouver sa chère Marceline. Dans ces conditions, je vous prierai, monsieur le commissaire, de me rendre le même service que vous m'avez demandé relativement à l'ignorance où je dois laisser madame Mifroy des succès que vous remportâtes auprès de ces dames talpas. Mais comptez sur moi, mon cher Théophraste. Si jamais je rencontre madame Longuet, je serai discret. Mais elle vous attend, madame Longuet? Non, monsieur le commissaire, non, elle ne m'attend plus. Avant de tomber dans ce trou de la place d'enfer, j'avais pris soin de laisser mes effets au bord d'une rivière. Elle me croit mort, noyée. Elle doit être plongée dans le plus profond désespoir. Une chose me rassure un peu, c'est que cet excellent monsieur le Camus, que vous connaissez, ne l'aura pas abandonné dans un état si extrême. Et je suis sûr qu'il lui a ménagé, le cher homme, aucune consolation. On eût dit que nous avions la plus grande peine de nous quitter, tant nous traînions la jambe en devisant de la sorte et en nous faisant nos derniers compliments. Nous nous trouvâmes ainsi au carrefour Bussy. Mes hommages à madame Mifroy, mes amitiés respectueuses à madame Longuet. Rappelez-moi, je vous prie, à l'excellent souvenir de monsieur le Camus. Enchanté, 3 semaines que nous avons passées ensemble. Croyez que je n'oublierai jamais. Nous nous secouillons les mains avec la dernière énergie pour dissimuler notre trouble, notre émotion, notre... Tout à coup, Théophraste Longuet se frappa le front et me dit « Il faut que je vous raconte un souvenir de votre jeunesse. » Cet homme, en une pareille peur, après 3 pareilles semaines, alors que madame Mifroid devait être si inquiète, m'eût dit « Il faut que je vous raconte un souvenir de ma jeunesse que j'eusse trouvé le joint nécessaire. » pour prendre congé. Mais il me disait, il faut que je vous raconte un souvenir de votre jeunesse. C'était bien curieux. Je restais et j'écoutais. Et voici ce qu'il me narra.